Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Peu de temps après la défaite de l'État islamique en Syrie, la guerre civile dans le pays a franchi une nouvelle étape, une étape supplémentaire. Avec la suspicion d'usage d'armes chimiques, attaque au chlore vendredi dernier, des bombardements aériens du régime sur la Ghouta orientale, contrôlée par les rebelles, ont également fait 235 morts civiles en 4 jours, soit la pire semaine en termes de pertes civiles dans cette zone depuis 2015. La Syrie devient le théâtre d'affrontements régionaux, notamment entre l'Israël, l'Iran et le régime syrien. Samedi, un avion de l'aviation israélienne s'est écrasé dans la région d'Haïfa, au nord de l'État hébreu, après avoir essuyé le feu de missiles anti-aériens. De l'autre côté de la frontière, en Syrie, cette perte est survenue alors que l'armée israélienne frappait en territoire syrien afin de s'opposer à la création d'installations militaires iraniennes. Sur ce territoire, où s'affrontent également par alliés interposés la Russie, les États-Unis, la guerre en Syrie est-elle une guerre de tous contre tous? Bonjour Caroline Galacteros.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes polémologue, vous êtes docteur en sciences politiques et colonel au sein de la réserve opérationnelle des armées. Vous êtes également présidente du think tank Géopragma et vous dirigez le cabinet d'analyse stratégique Planeting. Vous tenez un blog, Bougez les lignes. Est-ce que la Syrie peut encore s'enfoncer dans la guerre?
Oui, je le crois bien sûr, mais elle ne s'enfonce pas toute seule. On l'y enfonce, alors qu'on était il y a encore quelques mois dans une phase qu'on pouvait espérer meilleure, pas de sortie de la guerre, mais en tout cas on était en train de passer à une phase de transition vers un processus politique qu'on espérait par divers biais un peu propice à un apaisement.
Voilà. J'ai essayé de présenter un peu la situation qui, comme on le voit, est extrêmement confuse et complexe. Et on va essayer donc ensemble, Caroline Galacteros, de présenter les différents protagonistes et la situation. Tout d'abord, on va débuter par la Ghouta orientale et vous allez nous expliquer ce qu'est la Ghouta orientale et ce qui s'y passe.
Écoutez, il faut comprendre que dans ce conflit, cette guerre de tous contre tous, effectivement, en ce moment, c'est un peu ce qu'on voit, chacun a des objectifs. Le régime était dans une phase de reconquête qu'il entend totale du territoire syrien face à des ambitions, notamment américaines, de faire certaines enclaves, par exemple kurdes, parce que tout ce qui se passe en ce moment est le fruit, c'est une séquence. C'est une séquence dont on peut dire qu'elle a commencé peut-être, je ne sais pas, mais peut-être avec l'annonce très récente russe d'un retrait partiel du dispositif militaire russe. Et évidemment, ça a redonné des ailes à beaucoup de monde. Un peu avant cela, il y avait eu des annonces américaines de la création d'une enclave kurde et d'une force kurde armée. Donc ils ont de nouveau réappuyé et remisé sur les Kurdes. Ça a déclenché évidemment l'ire de la Turquie, qui elle-même déclenche, et donc qui a lancé une opération qui s'appelle Rameau d'Olivier contre cet activisme kurde ravivé. La Turquie, évidemment, ça fait pas l'affaire ni des Russes ni des Iraniens qui sont quand même dans un triangle face aux États-Unis, dans lequel Washington essaie d'enfoncer un coin. Rex Tillerson va se rendre à Ankara, je crois aujourd'hui ou demain. Donc il y a maintenant une phase où en fait, alors qu'on pensait qu'on était pas une sortie de crise, mais presque.
Une forme d'apaisement, en tout cas.
Une forme d'apaisement, en tout cas, qu'on allait pouvoir commencer à parler de choses un peu sérieuses pour l'avenir de ce pays dans le cadre d'une unité, malgré tout, même s'il y a beaucoup de choses à régler, à remettre en place pour une nouvelle Syrie. Eh bien, tout est reparti et chacun essaie de diviser les autres. Voilà, là-dessus, Israël a des problèmes, évidemment, avec l'Iran. Il y a eu le Sukhoi 25 russe abattu.
L'avion.
Oui, pardon, l'avion de chasse russe abattu, qui est un Sukhoi. Et bien sûr, on voit ce qui vient de se passer avec un F-16 israélien qui
s'est aussi pris un avion.
Qui s'est pris la défense contre avion, enfin la DCA syrienne, pour être entré sur le territoire syrien.
La Ghouta orientale est aujourd'hui le siège d'une crise humanitaire, une crise humanitaire qui ne vient pas de nulle part, qui vient tout simplement du fait des bombardements et des Bien actions sûr. Du régime. Expliquez-nous ce qui se passe dans la Ghouta orientale, à la fois donc ces faits de guerre, mais aussi l'enjeu.
Mais l'enjeu, c'est de vider, c'est d'empêcher cette zone de devenir un nouvel abcès de fixation de forces rebelles et djihadistes. C'est comme Idlib, il y a un certain nombre de zones où, en fait, dans une phase précédente du conflit, on a concentré des islamistes, des djihadistes. Et maintenant, ils sont réactivés à la faveur, je vous l'ai expliqué, de la relance américaine du conflit. Via les Kurdes et la réaction des autres.
Alors ça, c'est le discours voilà. du régime, mais
c'est l'observation militaire toute bête.
Je vais juste donner une autre version des choses. Ensuite, les auditeurs trancheront entre votre vision, qui est une vision plus de réel politique, je le savais en vous invitant,
Désolé.
Et une vision qui est différente et qui elle considère qu'on a affaire à une population civile, à des soldats qui étaient proches des forces démocratiques syriennes et effectivement des djihadistes. Le rôle donc du régime de Bachar el-Assad étant en quelque sorte de faire un amalgame.
Oui, mais les forces démocratiques syriennes n'ont de démocratique que le nom. Ça c'est bien gentil, c'est bien, mais ça reflète une réalité politique et militaire assez différente. Ce sont des forces qui ne sont pas là pour apporter la démocratie en Syrie. Ce sont des forces combattantes islamistes contre un régime qui donc se défend. Après que des populations civiles soient malheureusement les victimes indirectes de ces actions militaires qui visent à extirper, si vous voulez, l'engeance islamiste de tout ça, c'est un vrai problème, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la guerre au milieu des populations. C'est malheureusement le sort de cette guerre, comme de beaucoup d'autres.
Il y a quelques années, quelques mois, il y avait encore la possibilité de douter de l'utilisation d'armes chimiques de la part du régime syrien. Aujourd'hui, en tout cas, on ne peut plus en douter, Caroline Galacteros.
Je n'en sais rien. Je sais que toutes les parties de ce conflit depuis plus de 7 ans maintenant ont utilisé certains types d'armes dites chimiques. Maintenant, il y a des grosses différences. Donc là aussi, il faut faire attention entre le sarin, entre le chlore, c'est un gros débat et c'est un débat politiquement très très dangereux. Parce qu'évidemment, on a imputé les fameuses lignes rouges, n'est-ce pas, sur l'emploi de certaines armes chimiques. On a voulu le faire à l'égard du régime. Or, on sait très bien que ce soit en 2013 ou que ce soit à Khan Cheikhoun l'année dernière, il y a de forts doutes, toujours, en dépit de tout ce qu'on peut dire, sur l'origine réelle et les responsabilités réelles dans l'usage de ces composants chimiques.
Bon, on entend vos doutes, on entend aussi le débat, puisque aujourd'hui,
ça n'est pas tranché. Pas du tout.
Moi, j'ai lu plus d'articles évoquant donc la responsabilité écrasante du régime de Bachar el-Assad dans l'utilisation de ces armes chimiques. Il y a quelques mois, là aussi, Caroline Galacteros, et les gens qui, comme vous, donc, formulent un certain nombre de jugements relevant de la réelle politique, c'est-à-dire l'idée que finalement il faut s'adapter aux forces sur le terrain et que l'angélisme, hélas, n'a pas grand-chose à voir avec la stratégie et la géopolitique. Ces réalistes pensaient que finalement Bachar el-Assad, tout tyran qu'il était dans une position où il était quasiment certain de remporter la guerre, qu'il fallait donc le laisser avancer et que, une fois qu'il aurait gagné la guerre, eh bien, les exactions, notamment contre les populations civiles, cesseraient. Pourquoi ne cessent-elles pas aujourd'hui ?
D'abord, il n'a pas gagné la guerre. Deuxièmement, l'angélisme est le masque du cynisme et le réalisme est infiniment plus humain que l'angélisme précisément, et fait beaucoup moins de morts. C'est tout le problème de l'humanitarisme depuis 30 ans dans notre monde. Donc Bachar n'a pas du tout gagné la guerre et il ne s'agit pas pour moi ici de défendre qui que ce soit. Simplement, si on cherche précisément une efficacité, une sauvegarde humaine, il est grand temps d'arrêter d'intervenir et de déstabiliser de grands États. Ça, j'en suis absolument convaincue. Donc, ce qui se passe en Syrie, bon an, mal an, avec un tyran, un demi-tyran, un gros tyran, un petit tyran, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a un État et qu'une fois qu'on l'a déstabilisé, qu'on fait entrer l'engeance terroriste de tous les pays alentour, on ne peut pas s'étonner d'avoir des problèmes et des drames civils et humains absolument terrifiants.
Justement, expliquez-nous pourquoi, selon vous, Caroline Galactéro, ce pays qui n'était pas un pays central à l'échelle géopolitique est en train de devenir, suite à la crise des réfugiés, vous faites les gros yeux, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le-moi.
Non, pas du tout.
Ça n'est pas manquer de respect à la Syrie que de dire que jadis, quand on donnait des cours de géopolitique, on ne présentait pas ce pays comme étant l'un des axes principaux. On parlait de l'Iran, on parlait d'Israël, mais assez peu de la Syrie. Aujourd'hui, on le voit à la faveur de la crise des réfugiés. Maintenant, à la faveur donc de l'opposition des grandes puissances, à la fois les États-Unis, la Russie d'un côté, l'Iran qui est entré dans le jeu, la Turquie qui est là, Israël qui désormais a également maille à partir avec la Syrie, on voit qu'on a une réunion de la quasi-totalité des puissances guerrières de la région. Comment expliquez-vous cela ?
Pour moi, mais ça c'est parce que avant, enfin il y a fort longtemps, je m'occupais des Balkans, la Syrie d'aujourd'hui, c'est la Bosnie-Herzégovine des années 90. C'est-à-dire que c'est le laboratoire des rivalités mondiales de puissance et d'influence live.
Alors, voilà. Il va falloir que vous nous rafraîchissiez la mémoire, parce que vous n'êtes pas la seule à faire cette comparaison. Oui. Rappelez-nous d'abord ce qui s'est passé donc dans les Balkans à cette époque et en quoi il y a, selon vous, un parallèle à faire.
Ce qui s'est passé, c'est que l'ancienne fédération yougoslave, à la fin de la guerre froide, est devenue le centre de l'antagonisme entre tous les projets des uns et des autres, des puissances européennes, des États-Unis, de la Russie, de tout le monde à l'époque, et surtout, bien sûr, de l'Allemagne. Donc, les populations locales et les confessions et les leaders locaux, croates, serbes et musulmans de Bosnie, en ont profité pour faire avancer leurs propres agendas. Et là-dedans, tout le monde a mis son grain de sel, tout le monde est intervenu, des forces internationales, le sort des malheureux bosniens, bosniaques, quelle que soit l'appellation qu'on leur donne, de toutes ethnies, même s'il y en avait que deux, à vrai dire, mais en tout cas de toute confession en Bosnie-Herzégovine, est passé complètement à l'as. Il s'agissait pour nous de voir, dans la perspective de la fin de la guerre froide et de la réunification allemande, comment rééquilibrer les rapports de puissance, notamment entre France et Allemagne, mais aussi entre France et Amérique. Bref, finalement, c'était tout l'ordre post-guerre froide qui s'agitait, qui se recréait, qui bouillonnait en Bosnie-Herzégovine et en ex-Yougoslavie. Aujourd'hui en Syrie, c'est la même chose. Le monde est en train de se reconfigurer drastiquement. Les Russes sont revenus sur le devant de la scène. Les Américains sont absolument fous furieux parce que leur fiasco...
Pourquoi ? Parce que finalement, russe, donc, ça n'est pas une nouveauté en Syrie. On sait que Vladimir Poutine a permis à Bachar al-Assad de rester au pouvoir en Syrie. On sait que les Russes sont présents et apparemment, le point de bascule aujourd'hui, il est plutôt du côté américain. Expliquez-nous pourquoi.
Mais parce que l'Amérique ne peut pas se résoudre à sortir du Moyen-Orient, qu'en même temps, elle est dans une situation énergétique et pétrolière totalement différente. Elle est maintenant en autonomie énergétique quasi totale. Donc, il y a un problème avec l'Arabie Saoudite. Elle doit rééquilibrer sa relation avec Riyad. Mais Riyad, lui, a un problème, bien sûr, de concurrence à la fois religieuse, politique, économique. C'est pour ça qu'ils se sont lancés dans une grande réforme avec l'Iran. Et derrière, il y a Israël qui s'est rapproché de Riyad pour contrer l'Iran. Et l'Iran a évidemment sur la Syrie un intérêt naturel, qui est que c'est une puissance dirigée par, non pas des chiites au sens propre et absolu du terme, mais enfin, quand même, les alaouites sont proches du chiisme, et c'est une puissance c'est une puissance arabe chiite. Donc dans la région, c'est assez exceptionnel. C'est une route aussi, bien sûr, pour certains tracés gaziers et pétroliers importantes. Et il y a donc tout ce qu'on appelle l'arc chiite d'influence. Donc il y a une lutte d'influence terrible. Et derrière ceux qui font de l'influence régionale, il y a de grands parrains. Voilà.
Jusqu'où pourrait aller l'Amérique, jusqu'où pourrait aller Donald Trump dans ce qui ressemble de plus en plus à une guerre froide ou en tout cas un théâtre d'affrontement régional entre différentes grandes puissances, dont la Russie et les États-Unis. Je parle de la Syrie.
L'Amérique, elle a un problème. L'Amérique, elle a un gros problème qui est avec la Turquie. C'est-à-dire que la Turquie reste quand même le flanc sud de l'Alliance Atlantique, mais en même temps, la Turquie est clairement contre le soutien aux Kurdes syriens en l'espèce.
Pour des raisons régionales.
Pour des raisons propres, régionales, internes, enfin tout ce qu'ils veulent. Ils ont toutes les raisons de vouloir que les Kurdes syriens ne forment pas une enclave. Bon, la Turquie, elle a complètement renversé sa position. Il faut se souvenir du départ du conflit syrien où la Turquie était du côté occidental et espérait beaucoup du dépècement de la Syrie. Voilà. Et puis là, il y a eu précisément un petit tournant réaliste où ils se sont rendus compte que le rapport de force avait changé et qu'il fallait peut-être se placer aux côtés des Iraniens et des Russes. Jusqu'à un certain point, là aussi, il ne faut pas s'imaginer que tous ces gens s'aiment. Tous ces gens ont juste des intérêts convergents, pratiques, concrets, qu'ils essaient de faire avancer.
Et les Kurdes dans tout ça, parce que on a l'impression que les Kurdes ont été essentiels dans la lutte contre Daesh, qu'ils ont servi les intérêts occidentaux dans leur combat et qu'aujourd'hui, on les abandonne.
Oui, mais ça, c'est horrible. Vous allez dire que je suis une épouvantable réaliste, mais ça, c'était quand même un peu écrit. Parce que de toute façon, qui a intérêt, à part finalement l'Amérique qui fait agir de loin les Kurdes, qui a intérêt dans les puissances de la région à ce que, évidemment, un État kurde existe? Personne, à vrai dire. Aucun des quatre grands pays dans lesquels il y a des minorités kurdes n'y a intérêt. Et qui a intérêt à ce qu'ils deviennent même une zone autonome comme ils l'ont eu en Irak? Personne non plus. Je terminerai pour dire que la politique américaine, c'est plus compliqué que ce qu'on veut en présenter ici, que Donald Trump n'a pas forcément la main sur tout ce qui se passe en diplomatie et même au plan militaire, et qu'il n'est pas certain. Je pense que lui est sur une ligne beaucoup plus réaliste que ceux qui l'entourent.
Caroline Galacteros, on vous retrouve aux environs de 8h20. Vous serez rejointe par le politologue Andrei Gratchev, ancien porte-parole de Mikhail Gorbatchev. Et là, on évoquera plus précisément cette nouvelle guerre froide, je mets ça évidemment avec un point d'interrogation, qui se profilerait entre les États-Unis et la Russie.